Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 ce matin de 9h à 9h30 avec notre ami Gérard Carrérou qui est en train de fermer son portable. Arrive, c'est la vie. Bonjour cher Gérard, il est bien fermé.
Bonjour, il est bien fermé.
L'ai-je bien descendu ?
Il est verrouillé.
Il est verrouillé, je vous remercie beaucoup. Bonjour donc et bienvenue sur Europe 1 de 9h à 9h30, tous les jours à l'heure des pots et jusqu'à 10h30 sur CNews. Lorsqu'en 2007, François Fillon fait sa fameuse sortie « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Il y a 1200 milliards de dettes, ce qui représente à l'époque 64% du produit intérieur brut, le PIB. Aujourd'hui, nous en sommes à 3200 milliards de dettes, ce qui représente 111% du PIB. La dette a triplé en valeur, elle a doublé en pourcentage du PIB. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes trois fois plus en faillite ? Mais être trois fois plus en faillite, qu'est-ce que ça signifie si on était déjà en faillite ? Je m'abuse, d'abord parce que ces chiffres ne disent rien au commun des mortels, ensuite parce que la dette est à l'État ce que le Biguane est à San Francisco. C'est la faille de San Andreas, on sait que c'est possible, on n'y croit pas vraiment, on se dit que ce sera pour les autres générations. Et puis comme rien ne change, que les retraites sont payées, que le président a le chèque facile, qu'aucune économie n'est jamais réalisée, que la dette augmente, chacun se dit « ça passera encore ». Sauf qu'a priori, ça ne passe plus. Attention, danger. Emmanuel Macron était présenté comme le Mozart de la finance. Le problème, c'est qu'il a composé le Requiem. Dies irae, jour... Vous avez fait du latin. Dies, le jour, irae, la colère. Jour de colère. Dies irae. Mais cette affaire de dette, on va en parler dans quelques instants, parce qu'elle est avec l'omigue Guillaume, elle est globalement incompréhensible pour les uns et les autres. La preuve, c'est qu'on nous a dit il y a 17 ans que nous étions en faillite et on est toujours là. Donc c'est dire si c'est incompréhensible. Ou on nous a raconté des cracks, ou on nous le raconte aujourd'hui. Et on va en parler ensemble. Chana Lousteau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Sécurité renforcée dans plusieurs établissements scolaires ce matin. Un mail menaçant d'un attentat a été envoyé à des élèves. Il était accompagné d'images insoutenables de décapitations commises par des membres de l'État islamique. Des lycéens de Sèvres dans les Hauts-de-Seine ont reçu ce mail et forcément ce matin, ils sont très inquiets. Écoutez.
Première fois que je reçois ce genre de message, donc forcément c'est choquant. Après, on nous a bien rassurés sur le fait que c'était vraiment aucun message et que c'était faux, parce que la police avait bien enquêté et voilà, ils avaient les preuves comme quoi c'était faux. Mais il y a toujours, oui, il y a toujours un stress qui vient, quoi.
Ça fait un choc, quoi. Et puis le deuxième message rassure un peu plus et le dernier met totalement en confiance pour revenir au lycée.
Plus d'un Français sur deux est favorable à l'utilisation des statistiques ethniques pour lutter contre la délinquance. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 53% sont pour, 35% sont contre. Pierre-Marie Sève, directeur de l'Institut pour la justice, n'est pas étonné par ce résultat.
Ça me paraît être une tendance qui existe depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies, à une anglo-saxonisation de notre droit et de notre criminologie. Je pense que la tendance d'ailleurs va continuer à s'accentuer, à mon avis, de plus en plus de Français y seront favorables.
Dîner de crise à l'Élysée. La France cumule plus de 3000 milliards de dettes. Alors Emmanuel Macron a consulté ses ministres et sa majorité hier soir pour tenter de trouver des sources d'économie. La tension est autour du déficit public. Les chiffres sont attendus mardi prochain et ils pourraient être historiquement hauts. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal.
Merci beaucoup, Chana. Nous sommes ce matin avec Sabrina Medjeber.
Bonjour, Pascal.
Diaciré. Le Requiem de Mozart. On me dit, c'est mieux que Michel Sardou, peut-être.
Ça change, en tout cas.
Non, c'est pas mieux que Michel Sardou. Je retire immédiatement. Voilà, c'est pas bien de dire ça. Gérard Carrérou, bien sûr, que vous avez vu, qui a fermé son portable. Philippe Bilger, Philippe Guibert, ancien directeur des services d'information du gouvernement, donc vous êtes partie prenante de cette dette, vous pourrez nous rembourser.
Voilà quelque chose qu'on pourrait supprimer pour faire des économies.
Gauthier Lebret, oui, on aurait pu que supprimer le fameux SIG,
bien sûr.
Qui sert à rien, le service d'information du gouvernement, et l'OMIG Guillot. Bon,
merci,
on va.
Gauthier.
Non, mais je souris parce que. D'abord, c'est pas drôle, mais je souris parce que je suis persuadé que la majeure partie des gens qui nous écoutent disent oui, pff, la dette. Oui. Ça fait 40 ans, qu'on, quoi, pas 40 ans d'ailleurs. Ça fait 17 ans, 20 ans qu'on dit ça, et puis comme ça ne change pas. Ouais. Vous savez, c'est la phrase et puis elle tourne. Et puis elle tourne quand même. Bon. Alors, je voudrais qu'on écoute la fameuse phrase de François Fillon, qui avait tant fait réagir à l'époque, parce qu'il dit je suis à la tête d'un État. Je rappelle qu'il était Premier ministre, donc président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, de ne fait pas être. Forcément très content.
Bah, c'était la rupture, hein, dès septembre 2007.
Oui,
tout de suite.
Le problème, c'est qu'il a gardé 5 ans.
Ah, oui.
Pas ce qu'il a fait de mieux. Mais en revanche, on peut écouter François Fillon en 2007.
Il le pense peut-être aussi.
En 2007.
Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer.
Bon, alors, moi j'ai les chiffres, effectivement, avec vous, Lomig. Il y a deux types de chiffres, il y a le chiffre en valeur, mm-hmm. On est passé de 1200 à 3200 ou 3300, et puis il y a le pourcentage. Mais on va faire un peu de pédagogie. Mm-hmm. Quand on dit que la dette représente 111% du produit intérieur brut, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on dépense plus que ce qu'on gagne, tout simplement. Ça veut dire qu'on a 100 euros qui rentrent et on en dépense 117 pour schématiser. Et ce n'est pas récent, hein. Vous disiez ça fait 40 ans, mais est-ce que vous savez...
Ça ne veut pas dire ça. La dette, c'est encore autre chose.
La dette, c'est l'accumulation de tous ces déficits année après année. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit.
Et ça ne veut pas dire qu'on dépense plus...
si on est obligé d'emprunter
ça sur le produit, déficit.
Oui. C'est le déficit.
Mais ça veut dire que pour rembourser notre dette, on a besoin de deux années de production nationale. C'est ça que ça veut dire.
Parce qu'on n'est même pas tous d'accord, vous voyez, sur le PIB. Déjà, le produit intérieur brut, je pense que les gens ne savent pas ce que c'est.
C'est la richesse qu'on produit chaque année.
Voilà.
Donc, on a une dette qui est supérieure à ce qu'on produit chaque année.
Voilà. Ensuite, on a une dette qui est supérieure à ce qu'on produit chaque année. C'est différent.
Ensuite, on creuse cette dette avec un déficit qui est la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on rentre. Ce déficit, ça fait 50 ans qu'on le creuse. Le dernier budget à l'équilibre en France, c'était 1974. Depuis, on est sans arrêt dans le rouge. Et on est obligé d'emprunter pour, tout simplement, équilibrer nos comptes.
Alors, est-ce qu'on a, j'ai pris un petit diagramme, et grâce à Félix Perrollaz, qui nous a fait un petit diagramme. Est-ce que nous pouvons voir ces chiffres où on voit l'évolution de la dette ? Est-ce que nous les avons, Marine Lançon ? Dette publique en pourcentage du PIB. Donc ça, c'est très intéressant. Donc en 1980, c'est 12%. En 90, déjà, les années Mitterrand, merci, bravo, 35%. Boum. Comment ?
Ça commence en 80.
Oui, mais alors là, il y a 12%.
Creuser,
clair, vous voyez, bon, les années Mitterrand, boum. Les années 90, boum. Les années 2010, boum. Et les années 2020, boum. Donc, ce n'est pas sérieux, en fait. C'est les gens qui ne sont pas sérieux, ceux qui nous dirigent. Vous faites ça dans une entreprise, le mec, il est viré. Quoi, le mec, pardonnez-moi. Le patron, il est viré.
Donc, 50 ans dans le rouge, oui.
Oui, là, on est vraiment dans le rouge, on est à 115%. Donc ça, le plus important, c'est le pourcentage ou en valeur ? Qu'est-ce qu'il faut retenir comme chiffre, selon vous ?
Le plus important, de toute façon, c'est lié, c'est les mêmes. Ce qui est important, là, c'est la valeur qui est le plus parlant, parce que c'est ce qu'on a
donc
concrètement à rembourser, les 3 000 milliards.
D'accord, les 3 000 milliards. Bon, et alors, il y a eu une réunion de crise hier, mais en fait, on ne peut pas faire d'économie. On n'en
fait
jamais.
C'est ce qui s'est dit un peu, hein. À la réunion de crise, au dîner de crise hier.
Oui.
Alors, si, il y a des pistes. On peut lire dans Paris Match, c'est une info de Florian Tardif, qu'on pourrait supprimer les aides au logement, les fameuses APL.
Mais alors,
c'est une bombe sociale. C'est une bombe sociale. C'est combien par an les aides au
logement ?
Quel est le 15 milliards.
Non, mais quelle est la plus grosse dépense
retraite
pour l'État français ?
C'est les retraites.
Bon, alors on va commencer par ça.
On peut les désindexer, par exemple.
Est-ce qu'il faut diviser les retraites dans ce pays par 50%?
Pas forcément les diviser, mais on peut les désindexer.
Je rassure tous ceux qui sont en train de nous écouter qui font...
Ça n'arrivera jamais.
qu'est-ce qu'il vient de dire? Ils vont diminuer les retraites.
Non, mais ça n'arrivera jamais. Ça aurait pu être le cas au moment de la dernière réforme. C'est juste l'électorat d'Emmanuel Macron, les retraités.
Donc,
ça n'arrivera jamais.
Vous avez dit, très important, désindexer les retraites, ça ferait gagner beaucoup d'argent.
Oui, mais bon, les retraites, c'est combien les retraites sur les dépenses publiques? Ça représente combien de la dépense publique?
Ça représente la moitié, à peu près.
50%
aujourd'hui, des dépenses sociales qui représentent un tiers de la dépense publique.
Donc les retraites représentent un tiers de la dépense
sociale,
publique,
sociale, laquelle représente la moitié, 40% environ de la dépense totale.
Donc ça les fait... retraites, on pourrait y toucher, mais on n'y touchera pas.
Bon. Non, parce que c'est eux qui font les élections, les retraites.
D'accord. Donc sur quoi on peut faire des économies?
Le but, c'est pas de rembourser la dette, de toute façon. C'est de pouvoir emprunter dans des conditions convenables et acceptables. Parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'année prochaine, on doit réemprunter tous les ans 200 milliards. On a besoin de trouver des financements à des taux intéressants. Donc il faut qu'on donne des gages à ceux qui nous prêtent de l'argent pour leur dire que voilà, on n'est pas un État qui risque d'être, comme le disait M. Fillon, en faillite ou qui est en faillite, montrer qu'on est capable de rembourser. Donc il faut faire des économies. La Cour des comptes dit qu'il faut 50 milliards d'économies. Là où on les trouve, c'est là où il y a les plus grosses dépenses, c'est sur le social, c'est effectivement les retraites, la maladie, ça peut être aussi les aides au logement, toute la panoplie d'aides que l'on a, où on doit trouver des
autres. On doit faire face à un choc économique conjoncturel lié notamment à la géopolitique. C'est jamais de sa faute, hein, Emmanuel Macron. Mmh. C'est la géopolitique, c'est le Covid, c'est bidule.
Alors là, il se tient une balle dans le pied, voilà. Ça.
On assume et on dit la vérité aux Français. Ben non, c'est pas la géopolitique.
De voter au Parlement, impulsion d'Emmanuel Macron, 3 milliards d'euros pour cette année d'aides supplémentaires, l'équivalent aux Ukrainiens. Donc, il se tire une balle dans le pied. Ça veut dire, ne donnons pas 3 milliards aux Ukrainiens, cette phrase d'Emmanuel Macron.
Gauthier Lebret, l'heure de vérité est arrivée, nous empruntons le même chemin que la Grèce, a dit Éric Ciotti. Alors, manifestement, les éléments de langage ont été passés hier soir, et l'idée, ça va être, c'est pas de notre faute, c'est la géopolitique. Et M. Cazeneuve a parlé ce matin sur France Info. J'ai dit quoi ?
Cazeneuve,
si vous préférez. Oui. Tout le monde est d'accord, c'est pas de notre faute, la gars. C'est pas qu'on est nuls. Non, c'est pas ça. C'est pas de notre faute.
C'est l'Ukraine.
C'est la faute de l'Ukraine.
Mais pourquoi
ils ont
capable
d'être 3 milliards dans ce cas-là. Monsieur Cazeneuve, et je vous donne la parole. Oui.
La conjoncture internationale, elle est plus difficile en raison du ralentissement chinois, en raison de la guerre en Ukraine, du ralentissement de nos partenaires européens. Regardez, l'Allemagne a revu considérablement sa prévision de croissance. Et donc, on a dû revoir notre croissance. Il y a un choc externe, d'une certaine manière. Et c'est une forme de nouvelle donne pour nos finances publiques. On a évoqué cette nouvelle donne. On est revenu sur l'idée quand même que l'État réagit tout de suite. Je le redis, on a réduit de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État pour s'adapter à ce nouveau contexte international. Je crois que c'est l'esprit de responsabilité, la réactivité. Et c'est bien aussi le sens des discussions que nous avons aujourd'hui.
Il y a quelqu'un qui me dit à juste titre, tellement plus simple de dire que les retraites représentent 15%. Voilà, soyez simple parce que les gens, les retraites sociales, etc. Soyez simple parce que les gens ne comprennent rien. Il a raison, ce monsieur. Les retraites représentent 15% des dépenses de l'État. Point. C'est ça qui m'intéresse. Social, autrement, vous noyez tout le monde.
Mais pourquoi on panique? Pourquoi on panique au sommet de l'État? Pourquoi est-ce qu'on se met depuis 2-3 jours à parler de ça alors qu'on a l'impression que depuis 7 ans, le président de la République n'y accordait pas d'importance? Il était le Mozart de l'économie, etc. Il y accordait très peu d'importance. C'est que nous avons maintenant, effectivement, avec les chiffres qui vont être sortis, les 5,5% de déficit, largement supérieur aux 4,9% annoncés, nous risquons, dans quelques semaines, une dégradation internationale de la note de la France.
Ça, c'est le scénario privilégié. Hein.
Et c'est ça qui fait peur au chef de l'État. Parce que l'économie était, on pourrait dire, il avait échoué sur le régalien, sur la sécurité, la violence, etc. Mais il y avait cette idée quand même que c'était un...
surtout à l'arrivée.
Je n'ai pas dit ça, je dis simplement qu'il risque d'avoir l'image. En Europe, on est actuellement à la traîne avec notre déficit. Et si Moody's and Poor ou une autre des grandes agences de notation mondiale dégrade la France...
J'ai compris. Philippe Bilger.
Moi, je serais curieux de savoir, puisque vous êtes tous des très compétents dans ce domaine...
Non, je ne suis pas compétent du tout. Hein,
non, mais plus sérieusement...
Ni à titre personnel, ni à titre
quel départ,
vous êtes à l'équilibre, vous. Hein.
Quel départ on peut faire entre la dette qui est directement imputable à la mauvaise gestion du gouvernement et à celle qui relève tout de même des circonstances auquel il a dû soumettre.
Mais Philippe Bilger, je vais vous répondre. Le Covid, par exemple, c'est un mauvais choix politique. Fallait pas faire ce que nous avons fait. Fallait pas fermer le pays. Alors, il fallait pas le fermer. Ouais, ça c'est une erreur. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Ouais, on le voit bien. Mais il n'y a pas de discussion.
Sur le premier confinement,
mais
il y a discussion. Tout le premier, en tout cas.
Mais arrêtez, tout le monde ne l'a. Mettez pas en colère. La Suède ne l'a pas fait.
Oui, d'accord, la Suède.
Et la Floride ne l'a pas fait.
D'accord, tout le reste l'a fait.
Oui, mais la Floride, et la Suède n'ont pas eu un taux de mortalité supérieur au nôtre. Oui. Je suis désolé de vous le dire. Oui. C'est une erreur. Reconnaissez une fois pour toutes votre erreur. Je termine. Si ça revenait aujourd'hui, on ne ferait pas la même chose.
Mais cela étant dit, est-ce que on peut...
Ça, c'est une erreur politique.
Je serais curieux de savoir tout de même ce qui relève de la mauvaise gestion et ce qui est imputable à des circonstances que le gouvernement a dû...
Répondez.
Au contraire, on a très bien géré. C'est-à-dire que là, on a vécu avec des taux d'intérêt. C'est une façon de le dire. On a très bien géré la dette. On avait des taux très faibles. On a pu emprunter, on a pu se gaver d'argent gratuit. Donc, on a dépensé sans compter. Donc, oui, c'est une très bonne gestion de la dette avec une mauvaise gestion de l'argent public qu'on a laissé filer sans s'en préoccuper parce que ça nous coûtait rien. Là, on se réveille parce que tout d'un coup, les taux remontent, notre risque d'être dégradé et on panique parce qu'on se rend compte que notre dette va nous coûter 100 milliards d'euros par an rien que pour les intérêts. Donc, forcément, face à ça, oui, on panique.
Est-ce qu'on a, je crois que Nicolas Baverez a pris une position dans le Figaro la semaine dernière, et je voudrais qu'on lise, parce que Nicolas Baverez, c'est quand même le grand spécialiste aussi de la finance publique, et il dit toujours des choses qui, ça fait des mois qu'il prévient dans Le Point, dans le Figaro, ça fait des mois.
Ah oui.
Donc, on va droit dans le mur, mais t'as l'impression que ces gens n'écoutent personne, en fait, parce que l'important, c'est d'être élu. Il y a peut-être aussi la responsabilité des Français,
Oui,
ils ne veulent rien entendre. Hein.
Il faudra en parler aussi.
Et bah,
schizophrénie des gouvernants qui ne veulent jamais dire la vérité aux gouvernés, et il y a les gouvernés qui ne veulent pas l'entendre. Parce que, pour compléter ce que vous disiez, en fait, on cumule les deux par rapport à votre question. Est-ce que c'est de la mauvaise gestion ou est-ce que c'est les crises? On cumule les deux, c'est-à-dire que sur 40 ans, on augmente l'État social, dépenses de retraite, assurance maladie, assurance chômage, aide au logement, tout ce que vous avez dit. Et en même temps, quand il y a des crises, c'est là où vous avez raison sur le Covid, on dépense plus que les autres. On dépense plus que les autres. Et donc, et après, on n'arrive pas à économiser. Et donc, on cumule les deux. On cumule un État social qui progresse, tout gouvernement confondu. Et lorsqu'il y a des crises, on dépense sans compter. Et donc, à l'arrivée, on se retrouve avec des déficits accumulés d'année en année qui produisent la dette. Et qui produisent, comme vous l'avez très bien dit...
Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant c'est...
Il faudra s'attaquer à l'État social, si on veut.
Bah oui, bien sûr. Pas forcément. Oui.
On sera obligé.
Je ne sais pas, relancer l'industrie dans notre pays. Oui. Quand on voit, par exemple, que l'Allemagne, elle est à 60% de taux d'endettement et que nous sommes à 111% et que c'est le premier pays exportateur de l'Union européenne et deuxième après la Chine, peut-être qu'effectivement, il faudrait revoir les prélèvements obligatoires, parce qu'on est quand même champion en la matière, pour pouvoir essayer de dynamiser les entrepreneurs, de pouvoir créer une employabilité, de pouvoir produire et ensuite, in fine, inciter à la consommation et relancer notre produit intérieur brut. Peut-être que le vrai problème dans ce pays, c'est l'industrie, en fait.
Alors, Sabrina, je vous propose d'écouter un deuxième passage de M. Cazenave. Il a bien pris ses éléments de langage hier soir.
Alors, ils ont fait une conférence de presse hier avec Gabriel Attal. Ils voulaient se féliciter de la lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale, puisque 15 milliards ont été détectés. Oui. Vous ne pouvez pas faire des économies juste avec la lutte contre la fraude, parce que vous ne savez jamais combien de milliards vont se retrouver dans les caisses de l'État et vont revenir dans les caisses de l'État.
Mais là encore, ça m'a amusé. Fraude fiscale, oui. Mais fraude sociale, pas trop, faut pas y aller, parce qu'on veut pas mettre le feu au pays.
C'est alors, toujours Gabriel Attal, quand il était ministre du budget, avait présenté un plan, qu'il était venu présenter d'ailleurs chez vous le soir. Parce qu'il y avait quand même une volonté de le faire.
Comment dire? On peut faire de la bonne com sur la fraude fiscale, parce que ces salauds de riches, qui planquent l'argent, ou qui font l'évasion fiscale, ça, faut leur taper dessus. À juste titre, d'ailleurs. Mais en revanche, la fraude sociale, alors là, ça va mettre en péril.
Si on est honnête intellectuellement,
Il y a 15 milliards contre 1 milliard. Faut pas nous prendre. Et là, 15 milliards pour la fraude fiscale et 1 milliard.
Qu'est-ce que propose Gabriel Attal de fusionner cartes vitales et cartes d'identité pour justement essayer de limiter cette fraude?
Oui, je suis favorable à ça. Je vous dis, mais de toute façon, tout est dans le chiffre. On a récupéré,
bien sûr.
15 milliards de
fraude. On les a pas récupérés, on les a détectés.
Et on a pris 1 milliard simplement. On ne veut pas attaquer la fraude sociale. Parce qu'effectivement, c'est danger. C'est danger. Alors écoutons M. Cazenave. Et je donne la parole à Gérard Carreau.
ça sera supérieur à 5%. Encore une fois, c'est l'INSEE qui publiera la semaine prochaine. On a constaté, notamment en fin d'année, le ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique, moins de croissance, dit moins de rentrées fiscales, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, moins de cotisations sociales. Donc on le sait, le déficit sera plus élevé que prévu en raison de ce nouveau contexte international. Je crois qu'il faut que les Français comprennent bien qu'il se joue quelque chose aujourd'hui sur le plan international avec les crises géopolitiques et l'impact de la guerre en Ukraine qui a eu un gros impact sur les prix de l'énergie par exemple, sur l'activité économique de nos voisins. Regardez l'Allemagne par exemple, très impactée par la guerre en Ukraine et qui rejaillit naturellement sur nous parce que nous avons des relations économiques et commerciales. Pour un...
Il n'a pas honte, hein, monsieur Cazenave. Ouais, vraiment, il n'a pas honte. L'Ukraine. Et c'est ça qui te met en colère. Il n'a vraiment pas honte.
Il se tire une balle dans le pied, en plus.
Il n'a pas honte.
Qui donne pas 3 milliards dans ces cas-là. Il se tire une balle dans le pied. C'est parce qu'il vient de donner 3 milliards à l'Ukraine. Donc, dans ce cas-là, il donne un argument à ceux qui s'opposent aux 3 milliards versés à l'Ukraine.
Est-ce que c'est faux?
Complètement faux, l'Ukraine.
Est-ce que c'est faux? On devait mettre
C'est quand c'est pas l'Ukraine, c'est le Covid.
Ce qui est vrai, c'est que effectivement la guerre a eu des conséquences sur l'activité économique et sur la bonne santé économique. Après, malgré tout, ce qu'on comprend et ce qu'on voit, c'est que la stratégie d'Emmanuel Macron ces dernières années, c'est d'espérer combler les déficits et la dette par la croissance de l'économie. Et on voit que ça ne marche pas. Là, il y a moins de recettes, de TVA.
Mais c'est jamais de sa faute. Ce n'est jamais de sa faute. C'est-à-dire que l'autre jour, il a parlé aux hauts fonctionnaires pour leur expliquer que c'était de leur faute. Il a dit c'est Bibi qui trinque. C'est jamais de sa faute de rien. C'est quand même extravagant. Vous avez un président de la République qui n'est responsable de rien. C'est la géopolitique, etc. Donc, c'est pas possible quand même.
Alors, maintenant,
il est en place depuis 7 ans. Est-ce qu'il a fait les réformes de l'État pour baisser la dépense publique?
Il a fait la réforme des retraites l'année dernière, qui n'était pas. Il n'a pas suscité une grande adhésion.
Prenez l'exemple que vous venez de citer, la fraude. Ça a été le grand cheval de bataille hier. Le Premier ministre s'est gargarisé en disant c'est historique. Les chiffres, là, c'est simple. Historique parce qu'on a effectivement récupéré un peu plus de 15 milliards.
On l'a estimé à
15,2. Et l'année d'avant, c'était combien? Pour être passé à quelque chose qui n'était pas historique, à quelque chose historique. On était à 14,6 l'année d'avant. Autrement dit, c'est un contre-feu que le Premier ministre a essayé d'allumer hier pour essayer de dire, oui, il y a peut-être le déficit, mais regardez comme on travaille et la fraude. Voilà, ouais. c'est du blabla.
Il faut quand même préciser cette interview surréaliste de Bruno Le Maire.
Alors, ça va plus au président de la République.
Quelle image donne ce gouvernement où tu as quelqu'un qui est en place depuis des années et qui explique que ce qu'il faut faire, c'est pas ce qu'il fait?
Bien sûr.
Oui,
Attendez, je dis juste parce que ce qu'a dit Emmanuel Macron de Bruno Le Maire, parce qu'effectivement, la dette file et lui, il écrit un livre par an. Et donc, ça plaît pas du tout à Emmanuel Macron, qui a donc lu l'interview de Bruno Le Maire dans les colonnes du JDD en disant, il a raison, Bruno Le Maire, sur la relance économique et les réformes à faire, il devrait en parler à celui qui est ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron selon le Canard et l'AFP.
Ou Bruno Le Maire
pourrait faire le même reproche à
Emmanuel Macron, c'est vrai. Vous avez
raison. Mais en même temps, Pascal, sans vouloir forcément introduire une objection, on peut comprendre qu'un gouvernement, un ministre, a pu faire tout ce qu'il estimait nécessaire durant 7 ans et considérer qu'il y a encore des choses à faire. Ça n'est pas forcément absurde.
Est-ce que vous voulez des mesures simples pour faire des économies?
Si vous étiez ministre,
je vais vous en dire une très simple. Il y a des métiers en tension. Ça s'appelle la restauration. Il n'y a plus de chômage. Ça vous va, ça, comme mesure? Il n'y a plus de chômage.
Mais pourquoi il n'y a plus de chômage?
Parce qu'il y a plus de demandes. Il y a plus d'offres que de demandes, tout simplement. Mais parce que tous ceux qui connaissent la restauration savent qu'au mois de septembre-octobre, les types se mettent au chômage et vont reprendre en mars ou avril. Vous ne voulez pas entendre ça.
Mais je l'entends très bien, je vous avais raison.
C'est mal payé par rapport aux autres. Ce n'est plus vrai. D'abord, c'est mal payé. Dans un domaine où tu as plus d'offres que de demandes, qui est le cas de la restauration, je vous le répète, il n'y a plus de chômage.
Oui, je comprends ce que vous dites.
Vous comprenez, effectivement, c'est très bête ce que je dis d'ailleurs. Et pourquoi on ne le fait pas?
Parce qu'on n'ose pas diminuer. Il faudrait que pour les travailleurs de la restauration, on change le régime du chômage.
Une précision sur la fraude sociale, c'est 2 milliards détectés sur les 15 milliards annoncés hier. 2 milliards sur la fraude sociale.
Le chômage, évidemment, qu'il y a des abus invraisemblables dans le chômage. Et en même temps, ceux qui devraient en bénéficier, on ne les aide pas comme on devrait les bénéficier. C'est vrai. C'est-à-dire les cadres supérieurs qui ont bossé 30 ans parfois, qui ont cotisé pendant 30 ans, oui, bah, eux, il faudrait les accompagner quand ils ont 45 ou 50 ans, et au bout de 6 mois, on leur enlève que 50% de ce qu'ils ont.
On peut parler des Français un peu en général.
Oui, je suis d'accord avec vous. Thomas Hill, je lui dis, mais vous avez parfaitement raison, les Français sont responsables aussi. Tout le monde est responsable, sauf nous. Thomas Hill.
Merci.
Et la dette, hein, il va falloir... Vous avez de l'argent dans vos poches?
Je suis un peu juste là en ce moment, mais bah, je vais voir ce que je peux faire.
On en est tous là, mais croyez-moi, on va venir.
Tous.
On va venir. Bon, merci Pascal, Thomas. Bonne émission. Merci Thomas Hill. Il est 9h23. Qu'avez-vous à dire comme...
Non, mais il faut...
Je prends un exemple. L'inflation. L'inflation, ça a effectivement été amplifié par la guerre en Ukraine. Tous les pays européens l'ont connu. Nous sommes le pays qui a dépensé le plus d'argent pour compenser l'inflation. Donc à un moment donné... Il y a une responsabilité des gouvernants, mais il y a aussi une responsabilité des Français qui, lorsqu'il se passe quelque chose, demandent toujours à l'État de compenser. À l'arrivée, ça contribue bien à notre dette. Philippe... Et ça, il faut que tout le monde l'entende.
La pause.
Est-ce qu'on peut terminer par
la pause? La pause, on revient, il est 9h24. La pause, soyez disciplinés. Allez, la pause, à tout de suite.
Oui.
Exceptionnellement, nous parlons de la dette. Ce n'est pas un sujet dont on parle tous les jours et c'est sans doute le sujet le plus important du pays. Et on en parle parce qu'effectivement, on essaye de comprendre.
Somaïa Labidi. Oui,
ça chauffe.
On en parle parce que ça chauffe.
Exactement. Somaïa Labidi.
C'est l'un de vos thèmes de débat, Pascal. Le dérapage budgétaire se confirme. Selon Thomas Cazenave, le déficit public devrait être supérieur à 5% du PIB en 2023. Situation de crise à l'Élysée où Emmanuel Macron a enchaîné les réunions hier soir. Projet d'attentat déjoué contre une église, un homme de 62 ans interpellé début mars en région parisienne. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes. Et puis un peu de France à New York, inauguration aujourd'hui du premier café joyeux outre-Atlantique. La chaîne inclusive de restauration qui emploie des salariés handicapés se lance sur un marché du travail quasi fermé pour eux sur place.
On ne va pas faire d'émission entièrement, évidemment, sur la dette, mais c'est très intéressant ce que disait Philippe Guibert il y a quelques secondes. Il disait, on a fait les retraites. Mais en fait, on a fait n'importe quoi. Pourquoi? Vous savez combien il y a de fonctionnaires en France? Il y en a 5 millions. C'est le déficit des retraites des fonctionnaires? 90 milliards. Dans le privé, il y a très peu de déficit. Et on a touché à quoi? On n'a pas touché aux retraites de la fonction publique.
Si, les règles se sont appliquées au public comme au privé.
Quasiment.
Dans la réforme des retraites.
Oui, à la marge. En fait, les vraies retraites qu'il faudrait changer, c'est le public. Mais là encore, on n'ose pas y changer, ni toucher. Mais ça fait juste 50 ans. Donc, en fait, c'est la fameuse phrase. Oui, on paye. On a vu, on peut retrouver le diagramme tout à l'heure. Les années Mitterrand, c'est un drame.
Mais non, c'est pas vrai. Diagramme le prouvait. Alors, si vous faites la comparaison...
Non, c'est pas vrai. Mais c'est un état d'esprit.
Ça commence en 80, il faut arrêter.
C'est un état d'esprit.
80, 83,
le fait de privilégier les retraites dans ce pays, c'est une décision des années 60.
Regardez.
Mais
c'est un état d'esprit. Je veux dire, avant...
Regardez vos chiffres. Mais vous passez entre 2000 et 2010, vous passez de 35 à 58.
Mais
les années Mitterrand, c'est une vingtaine de milliards. C'est beaucoup moins.
C'est un état...
C'est pas vrai, ce que vous dites sur Mitterrand.
C'est un état d'esprit.
C'est un début.
Continue avec Jospin et Martine Aubry, les trois vainqueurs.
Enfin, Gérard, la droite a gouverné largement autant que la gauche ces 40 dernières années. Arrête de dire ça.
Les 35 heures sont un drame.
Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la dette.
La retraite à 65 ans de M. Mitterrand, c'est un drame.
C'était à 60 ans et c'était justifié pour les générations qui avaient commencé à travailler à 14 ans.
Mais je vous connais.
Si vous défendez, rien ne changera.
Je vous connais, rien ne changera.
Pour la génération
de vos parents. Sauf la seule chose qu'il faudra, c'est gagner de l'argent aux riches.
Oui,
ça sera votre truc.
Mais là, vous faites diversion par rapport à notre débat. Vous faites diversion par rapport à notre débat.
Le gouvernement, pour le moment, se refuse à toute hausse d'impôts.
Vous n'avez pas raison. Mais François Hollande, ça a été un drame.
Mais
Jean-Marc Ayrault, ça a été un drame.
Mais non, arrêtez de dire...
Il me semble que François Hollande a moins creusé la dette que Nicolas Sarkozy.
Eh oui, moins que Nicolas Sarkozy et moins qu'Emmanuel Macron. D'ailleurs, on l'a payé très cher, puisque à force de vouloir réduire les déficits, on a perdu beaucoup en popularité.
Voilà ce qu'on pouvait dire.
Il faut terminer par ce que disent les ministres, parce que c'est toujours pareil. Tout le monde est d'accord pour faire des économies, mais jamais dans son secteur. Donc là, Gabriel Attal a annoncé à Rachida Dati moins 200 millions pour le ministère de la Culture. Elle lui a dit, je vais transformer ton chien en kebab. Oui. Éric Dupond-Moretti a ajouté, moi je vais en faire des nems.
On ne sait pas si c'est vrai.
Ça. Alors, je veux dire, évidemment que c'est du second degré. Évidemment
mais qui, degré. Comment vous savez ça?
Ça a été rapporté dans la presse. Et surtout. Oui,
rapporté dans la presse. Vous croyez ce que dit la presse? Quand je vois comment elle parle de nous, parfois, je mets des.
Alors, si vous me laissez aller jusqu'au bout de mon développement, Rachida Dati a été interrogée là-dessus en audition à l'Assemblée nationale en citant cette phrase et elle ne l'a pas démentie. Il y a d'autres propos de Rachida Dati qui ont été rapportés par la presse qu'elle a démenti. Un texto à Bruno Le Maire. Là, elle ne l'a pas démenti.
Très grande violence.
Elle n'a pas démenti. Et c'est plutôt de l'humour. Je transforme mes touchants en kebab et je vais en faire des nems.
Et c'est plausible de sa part.
Et c'est plausible de sa part. Mais ça dit quelque chose de on ne veut pas faire des économies dans notre secteur. Bon. Les autres, oui, mais pas chez nous.
Écoutez.
Comme les Français, voilà, veulent toujours faire.
Comme les Français, d'ailleurs. Oui,
non, mais faire des économies pour les autres, mais pas pour eux.
Les économies, c'est toujours pour les autres. Vous avez parfaitement raison.
Bien sûr.
Bien sûr.
Et une chose qu'on n'a pas dit.
Quand je vous ai dit, parce que ça vous fait sourire, évidemment que le service d'information du gouvernement, ça sert à rien.
Mais Pascal,
à rien. Le conseil économique et social.
Vous connaissez le budget du service d'information du gouvernement?
Mais je m'en fiche.
Bah non.
Bah c'est des économies.
Ça s'appelle une économie. Le conseil économique.
Une dizaine de millions d'euros.
Mais on s'en fiche puisque ça sert à rien.
Mais c'est vous qui le dites, c'est pas le cas. Pourquoi les gouvernements le gardent? Vous savez pourquoi? Parce que c'est très utile.
Il fait des revues de presse. Moi, j'ai déjà envoyé ce qu'ils font, des revues de presse.
Oui, mais Pascal, regardez.
Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux.
Quand vous étiez directeur, vous aviez besoin de deux chauffeurs. Vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on dise les choses dans ce pays? Les gens ont besoin d'un chauffeur? Quand on est au service d'information du gouvernement?
Alors là, vous êtes vraiment d'une démagogie crasse, quoi, quand même. On vient de parler des 3 000 milliards de dettes, en fait. Et on va parler du chauffeur que j'avais quand j'étais directeur du service d'information.
Oui, parce que c'est un état d'esprit. Non, je plaisante pas.
Oh, vous plaisantez, là, vous êtes d'une démagogie crasse, quand même.
C'est-à-dire qu'on vous avez besoin. Est-ce que. Alors, je ne vais pas parler de vous.
Oui, j'en avais besoin. Par ailleurs, j'en avais besoin. Parce que votre.
À la
votre
Maison Blanche, il y a 3 ou 4 chauffeurs. En fait, les ministres ont leur voiture personnelle. Il n'y a qu'en France que les petits chefaillons d'administration ont des voitures de fonction. À TF1, il y avait 3 voitures de fonction. Dans la fonction.
Dans la fonction publique. C'est un état d'esprit. Mais non, ce n'est pas un état d'esprit. Le problème, c'est les dépenses sociales, c'est le fait qu'on veuille avoir la première armée d'Europe. On veut tout faire en même temps. C'est pas le chauffeur de Matignon, c'est ridicule.
Mais Matignon, c'est pas la même chose. Que Matignon, un chauffeur, je dis, je parle pas de vous, je dis que d'abord les gens, ils savent même pas.
Mais vous savez qu'il y a un pool de chauffeurs. Moi, je l'ai vécu.
Oui, mais les gens, ils savent même pas ce qu'est le service d'information du gouvernement.
Non.
À juste titre, parce que ça ne sert à rien.
Bon, et vous êtes totalement tort. Le matin, ils écoutent les matinales. Ils écoutent les matinales le matin. Ils font un compte rendu et ils l'envoient au ministère. Mais bien sûr, c'est ça aussi.
Arrêtez de dire n'importe quoi.
Ah bah, c'est pas n'importe quoi. On les a déjà envoyés, je les ai lus.
Franchement.
Des fois, moi, je suis cité dans ces petits.
Les revues de presse, ça existe.
Eh bien, c'est un état d'esprit qu'il faut.
Vous dites n'importe quoi, là.
Vraiment.
Ben, on dit n'importe quoi.
Vous défendez votre
petit chauffeur.
Je défends pas.
Je veux mon petit chauffeur. Mon petit chauffeur, je le veux. On dit n'importe quoi, sauf mon petit privilège à moi.
Ben voilà, je suis désolé de vous le dire, cher ami. Mais c'est comme ça, mais je ne vous accuse pas, vous. Hein. C'est pas de la démagogie, c'est un état d'esprit.
Vous ne connaissez pas la vie des hauts fonctionnaires, Pascal. On travaille largement. Pardon, mis en cause, je me permets. Les hauts fonctionnaires dans ce pays travaillent énormément. Et donc, êtes appelé dans une urgence au cabinet du Premier ministre, vous prenez votre voiture parce que c'est la plus rapide. Voilà la raison.
Et quand nous, on est. Enfin bon.
Voilà.
Non, mais vous avez été appelé combien de fois au cabinet du Premier ministre?
Plein de fois. Des centaines de fois.
Mais là, vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous prenez votre scooter, vous faites comme tout le monde.
Mais c'est
évident. C'est dangereux. Vous irez plus vite.
Vous n'en êtes pas
de scooter. Heureux de prendre c'est dangereux de prendre mon scooter.
C'est pas vraiment.
De toute façon, c'est un état.
Mais là, c'est une évidence que dit Philippe Guibert.
Comment?
Pourquoi vous le contredisez là-dessus?
Je dis que c'est un état d'esprit. Oui, mais. Par exemple, le conseil régional ne sert à rien.
Oui, mais
voilà, à rien.
C'est une affirmation.
Oui, bah oui. Bah, si vous me dites à quoi ça sert,
vous pourriez
ça
la démontrer.
Ah, facilement, oui.
Ah bon.
Rien. Tu fais la mairie, conseil départemental, point.
Mais ça donne énormément d'aide aux entreprises, le conseil régional, Pascal.
Donc il y a rien. En fait, il y a rien à changer.
Vous construisez les lycées, vous faites toute la formation professionnelle, et vous faites toutes les aides aux entreprises. Donc le conseil régional ne sert à rien.
À rien du tout.
Et vous faites faire par qui alors?
L'État.
Il y a une chose.
Il n'y en avait pas avant et ça marchait en fait.
Donc vous allez faire remonter à l'État des choses qui sont faites sur le terrain.
Mais qu'est-ce qui se passait avant 81?
Eh bien justement, c'est pour ça qu'on a fait cette réforme de la décentralisation. Mais parce que ça marchait pas bien. Et parce qu'on a voulu rapprocher la décision.
Ça marchait mieux avant 80.
Mais non, il faut rapprocher la décision du terrain. C'est ça le but de la décentralisation.
Juste qu'on a pas dit, Pascal, c'est 2027, la première dépense de l'État, c'est les intérêts de la dette. Avant les hôpitaux, avant les écoles, avant les retraites, avant les routes.
Globalement, moins il y a d'État, mieux ça marche.
2027.
Oui, moins il y a d'État, mieux ça marche. Et en revanche, l'État doit être régalien sur, effectivement, l'école, sur, c'est ça.
Là où il y a un...
Et il y a trop de fonctionnaires dans ce pays, tout le monde le sait, on a plus de fonctionnaires que dans n'importe quelle autre nation, tout le monde sait ça, mais
peut-être je m'aperçois
que dans notre petit échange qui traduit un état d'esprit, au fond, mais je vous connais.
Mais non, mais parce que vous comprenez rien, le problème principal qui est celui de notre état social. Mais vous ne voulez pas l'aborder.
Allez, Emmanuel Macron, les photos d'Emmanuel Macron, parce qu'elles ont fait réagir.
Rocky Balboa.
Vous êtes en ce moment très...
Oui. Ah, mais c'est Rocky Balboa.
Vous êtes très, très offensif.
Emmanuel Stallone.
C'est vrai, absolument.
Mais, alors, ce qui est drôle...
Non, mais c'est pour montrer que face à Poutine,
oui, mais vous
t'as
savez,
pas rigolé. Hein.
Oui, mais justement... Vous savez quel est l'homme politique qui s'est mis comme ça, en train de faire de la boxe?
Bah, il y en a eu plusieurs.
Édouard
Français, non?
Édouard Philippot, il l'a fait avant
oui,
Emmanuel Macron.
Oui, mais il avait fait des fautes. Alors, d'abord, c'est des fautes. Il a des bras importants.
Ah, là, il est musclé, hein.
C'est des... Bon. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Gérard, vous qui êtes un homme politique...
Parfaitement ridicule.
Je pense franchement que c'est aberrant que cette photo soit devenue une des photos que tous les Français ont vues depuis deux jours. Ça me paraît fou. C'est un monde fou. Alors, je vois bien la signification, effectivement. Le président est dans sa phase guerrière. Il est à la fois le chef des armées et il tient la dragée haute. Oui. Voilà. À la place des Américains qui se sont mis de côté, il tient la dragée haute.
Ça veut dire qu'il a le physique de l'emploi.
Et du coup, il est là en position de... Franchement... Non, c'est ridicule.
Moi, d'abord, il continue dans une forme de narcissisme qui est tout de même son ADN principal. Et deuxième point, là, il lutte contre un ennemi virtuel.
C'est pas qu'il nous écoute le matin, mais il doit être content.
Il lutte en tant que boxeur contre un adversaire virtuel. Et pourquoi cette image est choquante? De mon point de vue, c'est que ce même président cherche à donner l'image d'un combattant, alors que dans son discours régalien, c'est des mots, des mots, des mots. Nous ne céderons pas, nous ne fléchirons pas, nous résisterons, alors qu'on sait que c'est l'inverse de ce qu'il montre par cette posture grotesque. Voilà.
Oui, implacable.
Non, mais c'est de la communication, effectivement.
Moi, je trouve que c'est lamentable de
la part... Le physique guerrier face à Vladimir Poutine.
Bon. Le hiatus entre le boxeur et le chef d'État est tout de même impressionnant.
Alors, je l'ai dit hier, mais je le redis ce matin. Je voudrais qu'on dise quelque chose de positif du président de la République.
Ah, mais il est...
Les photos sont belles.
Ah, c'est une très belle photo.
Voilà.
J'en ai assez de dire du mal du président de la République. Mmh. Je voudrais vraiment...
Mais moi, je suis prêt à en dire du bien quand il en fera.
Bon. Oui, bon. Alors, est-ce qu'on peut voir d'autres photos? Par exemple, quel est l'homme politique célèbre qu'on avait vu faire de la boxe? Et je crois que... Alors, bon, effectivement, il y a eu Gérald Darmanin, mais là, il ne fait pas vraiment de la boxe. Oui, il a une de match. L'autre jour, les hommes politiques...
C'est la mise en scène de la vie privée.
Voilà, ça, c'est effectivement Vladimir Poutine qui pêche...
Qui est moins musclé que Emmanuel Macron.
Voilà, qui... Ben oui, mais il a 20, 40 ans en plus.
Bon, après,
nous avons cette célèbre photo, bien sûr, avec John. Bon, c'est la communication politique, bien sûr. John Gattini, président Sarkozy.
Ça, c'était la campagne, oui.
C'était la campagne, la plus grande campagne de l'histoire de la Ve République.
Après celle de Mitterrand en 80,
c'est totalement de votre avis. Là.
Et là, alors là, après regardez, celle
de Dominique de Villepin, ça.
Dominique de Villepin,
ça lui a pas porté chance. Hein.
Oui, ça lui a pas porté chance sur cette merveilleuse plage de la Baule, qui est chacun sait l'endroit le plus beau du monde également. Et puis, mais il y avait une photo que j'avais donnée à Marine tout à l'heure. Elle l'a pas montrée la photo. Donc c'est celle-là qui peut être effectivement mise en perspective avec la photo du président de la République, mais bon, manifestement, on ne la font pas.
Mais c'était qui alors?
Bon, j'ai joué mon effet de surprise, il va être...
Si vous ne l'avez pas, ça va être compliqué.
On l'a ou pas, Marine? Elle arrive bientôt, donc je ne sais pas où elle est, elle doit être dans les couloirs, elle doit se balader, elle prend l'ascenseur, la photo, et puis elle appuie sur le numéro 5 et... Elle arrive au studio de l'heure des pros. Non.
En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé ça grotesque.
Ah ben, on l'a pas.
Je vous ai trouvé très sévère parce que je n'ai pas trouvé ça grotesque. C'est
vous parlez de la boxe, là?
Oui, ouais, je parle des photos de boxe.
On l'a ou pas?
Ce qui est intéressant, c'est que...
C'est de la mise en scène, et puis tous les présidents de la République, oui, jusqu'au roi,
oui,
mais ont fait de la mise en scène.
Marine me dit que je suis agacée. Ben oui, je suis agacée de pas voir la photo.
Mais c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'il est parti à Marseille, il a fait son opération XXL de lui-même. Ils ont apparemment récupéré deux, trois sachets de cocaïne. Non, mais c'est intéressant parce que... C'est complètement décorrélé, ces bilans, en fait.
Je ne m'en souvenais pas.
Alors, je ne suis pas sûr que c'était le parallèle recherché par l'Élysée.
Ah bon? Écoutez.
Là, notre sort est terminé. Là.
Mais non, mais pas du tout, mais bon.
Très fâché.
Et là aussi,
il n'aurait pas été.
Là, il vient plus, c'est sûr. Alors là, je vais faire une analogie avec Jean-Marie Le Pen, c'est terminé.
Ah, qu'est-ce qu'il dit?
C'était pas tellement.
Non, mais elle
est. Encore, ça allait.
Voilà, la photo de... Alors, c'est Alexis Corbière, en fait, qui a mis ça. Comme ça, la photo de Macron boxeur frappant dans un sac rappelle celle de Jean-Marie Le Pen en 88. À l'époque, tout le monde moquait une esthétique viriliste typique de la symbolique du chef d'extrême droite. Inquiétant. On ne combat pas une idéologie en reprenant ses codes, a dit Alexis Corbière. C'est pas moi. Donc là, je suis un peu... Et puis alors, regardez une vraie photo aussi d'un homme qui peut-être savait se mettre en scène également. Voilà.
Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle avec des gants de boxe sur Instagram en noir et blanc?
On a beau dire, bon. Le raisonnement reste ouvert.
Alors, on va dire du bien. On va dire du bien du gouvernement.
Ah bon?
Bien.
Et ça, c'est bien. Éric Dupond-Moretti, ce qu'il a dit est formidable.
Sur les joints qui ont le goût du sang.
Exactement. Ah pour la première fois, voilà quelqu'un qui ose dire les choses et dire que les consommateurs ont du sang sur les mains.
Ce qu'avait dit aussi Gérald Darmanin, quand vous achetez un joint, vous achetez un morceau de la Kalachnikov.
Eh bien, il a effectivement raison. Écoutons Éric Dupond-Moretti, ce qui nous permet de dire du bien de ce gouvernement de la Ve République.
Le trafic de stupes, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire des policiers, des douaniers, des gendarmes, des magistrats, des greffiers.
On l'a entendu avec le témoignage de Frédéric, c'est l'affaire de tout le monde.
Ce que je veux vous dire, madame, c'est que celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là, vous voyez, il a le goût du sang séché sur le trottoir. C'est 50 homicides volontaires. Je voudrais qu'on remette tout ça dans le bon ordre. Hein. Si les gens se tuent, si les gens trafiquent, c'est parce qu'il y a quelques bobos, quelques petits bourgeois, gens qui, de façon totalement inconsciente, pensent qu'ils ont le droit de fumer du shit le samedi soir. Ça, je veux le redire ici, c'est l'affaire de tout le monde.
En même temps, tout fait sens, parce que qui, pour lui, fume des pétards? Des bourgeois.
Oui.
Et des bobos. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des bourgeois et des bobos.
Alors,
mais
il y en a aussi. Dans le BTP,
oui, mais il y a
dans
que
tout type de métier.
C'est toujours pareil. Il y a que, pourquoi ils citent les bourgeois?
Oui, il y en a
parce qu'il y en a aussi.
Oui, il y en a aussi, mais ce n'est pas, encore une fois, l'entièreté des consommateurs.
Mais
ce
n'est pas l'entièreté des consommateurs.
Ah non, mais c'est un idée.
Ah, mais vous m'avez braqué, cocaïne ou d'héroïne ou de drogue naturelle ou drogue de synthèse. Il y a énormément de métiers et de corporations qui sont touchées par la consommation de drogue. Mais ce qui est étonnant dans...
Ils se trompent, parce que c'est dans la restauration, par exemple. Moi, j'ai
les BTP, bien sûr.
Vous deviez dire du bien.
Oui, vous avez raison. Je redis du bien. Bon, il a raison. Il a raison.
Oui. Non, mais le problème, c'est qu'en fait, il confond la vision médicale et la pénalisation de la consommation de drogue. C'est-à-dire que cette loi de 1970, dite loi Mazo, elle regroupe tout, alors qu'il faut faire de la casuistique, c'est-à-dire que les consommateurs sont des malades, il faut les traiter comme
absolument des
malades. Et ça, vous avez écouté l'audition d'Alain Bauer. L'homo festivus qui de temps en temps fume son petit joint sur son canapé. Mais vous avez aussi l'homo addictus, oui, le cher Pascal. Lorsqu'on parle des crackers, mais c'est une réalité, ces gens-là sont des malades, c'est une réalité. C'est moi qui le dis, hein. Alain Bauer, lorsqu'il a été auditionné au Sénat, il le précise très bien. Il dit qu'il y a vraiment... La problématique, ça doit être la désaddiction. Ça doit être une priorité de l'État
français.
Ça vous arrange
parce que c'est pas vrai, en fait.
Malheureusement, on n'a pas de moyens parce qu'on n'a pas d'argent. C'est le problème. Parce que la seule chose qu'on peut faire, c'est l'injonction thérapeutique. Mais l'injonction thérapeutique qui répond au code de la santé publique, elle répond aussi à la possibilité pour le malade de ne pas s'y enjoindre. C'est ça le souci. Et en même temps, malheureusement, la vision pénale que l'on a du consommateur, c'est quoi? C'est une amende? Qui paye les amendes en réalité? Enfin, je veux dire, les chiffres prouvent de même ce qu'ils sont.
Donc laisser les consommateurs, essentialiser les consommateurs comme le bobo, ils se trompent complètement, il n'y a pas que le bobo, et puis il faudrait le traiter comme tel, en fait.
Il y a quand même un souci, avec ce qu'a dit Éric Dupond-Moretti dans cette interview hier chez Apolline de Malherbe, et ce qui s'est passé à Marseille. C'est-à-dire que vous avez des magistrats qui sont allés témoigner au Sénat sous serment, qui ont dit « la guerre contre le trafic de drogue, elle est perdue ». Éric Dupond-Moretti arrive à Marseille pour sa visite avec le président. Et qu'est-ce qu'il fait? Excusez-moi l'expression, mais il va engueuler les magistrats qui étaient sous serment et qui ont donc dit la vérité de ce qu'ils voyaient tous les jours. Ils se sont fait engueuler par le garde des Sceaux, qui l'a assumé ensuite dans cette interview.
Mais et d'ailleurs, il y a un bon papier ce matin dans le Figaro là-dessus. Le problème, c'est qu'ils ne veulent surtout pas qu'on dise la vérité. Le problème, c'est que c'est...
Oui, ça, sûr.
On arrive dans les années bilan. En fait, c'est une catastrophe dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Il y en a... Quel est le seul domaine qui marche en France? Donc on est des dettes. Je vais vous dire ce qui marche très bien en France. Le privé. Ça marche très bien.
Ouais. Prélèvement des impôts, ça marche bien aussi.
Non mais le privé, ça marche très bien. Toutes les entreprises.
Nos grandes entreprises publiques sont incontournables. Le SNCF, heureusement que ça n'a pas été privatisé.
Ça marche très bien.
Heureusement que ça n'a pas été privatisé.
C'est top la SNCF.
Ouais, allez voir.
Non mais
allez voir.
Là c'est extraordinaire.
Allez voir en Grande-Bretagne la privatisation des trains, ce que ça a donné. Mais pour revenir à la drogue...
Non, mais là, c'est une blague.
Non, c'est pas une blague. Je suis désolé. La SNCF marche beaucoup mieux qu'en Grande-Bretagne où ça a été privatisé dans les années Thatcher.
Non, mais d'accord. Mais...
Donc ne disons pas que quand c'est du privé, ça marche forcément mieux. Ça dépend des domaines. Pour revenir à la drogue, il y a 3 millions
C'est une joke.
Vous m'inquiétez. Hein.
Mais je vous assure que c'est vrai.
Ce que je veux vous dire, c'est que si la SNCF... D'abord, vous avez raison sur un point. La SNCF, c'est un monopole naturel. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais si tu appliquais les règles du privé à la SNCF, tu pourrais faire peut-être 30% d'économie.
Mais non, parce que ça serait de la concurrence et à ce moment-là, ça ne marcherait pas. Les monopoles privés, c'est pire que les monopoles
privés. Dans la gestion humaine, pardonnez-moi. Évidemment.
Y a un statut qui a été voté en 1945.
Évidemment que.
Mais les consommateurs de drogue.
Je vous parle de Jacques Vendreau qui nous parle de. Lorsqu'il était à France Inter, il y a des gens qu'il n'a jamais vus en 30 ans.
Mais
le public, évidemment, ça n'existe pas dans les boîtes privées. Tout le monde sait qu'il y a une gabegie dans les boîtes publiques qu'il n'y a pas dans une boîte privée. Tout le monde le sait.
Sauf vous, lesquelles
ça dépend lesquelles.
La SNCF, ça marche quand même plutôt bien.
À quel prix?
Les consommateurs de cannabis, puisque Sabrina en parlait et que c'était notre sujet,
et pas que
c'est
de cannabis,
3 millions
d'ailleurs,
de consommateurs très réguliers. Et donc, Sabrina a raison de dire... que pour ces personnes-là, ce n'est pas le pétard du samedi soir. Parce que c'est, hélas, une consommation.
En tout cas, on va marquer une pause. Et je cite mon ami Olivier Dartigol, qui dit « Tu n'as pas été sympa avec Philippe Guibert sur son activité professionnelle passée. Solidarité à lui. La gauche serre les rangs. Fais-lui un câlin. » Je vais y aller.
Non, je refuse cette compromission avec le...
C'était un câlin symbolique.
Vous avez été un peu populiste là.
Mais pas, non, mais si. Vous n'avez pas compris. C'est évidemment.
Si, j'ai bien compris.
Je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Oui. Fais-lui un câlin avant la fin de l'émission. Je traduis un état d'esprit. C'est-à-dire que chaque fonctionnaire devrait être soucieux de l'argent qu'il dépense jusqu'au crayon qu'il achète. Parce que c'est notre argent.
Parce que je peux vous assurer que dans les hautes administrations d'État, les économies de fonctionnement qui ont été faites, y compris sur les stylos, depuis 10 ou 15 ans, sont très importantes. Je peux vous assurer ça.
Il y avait du gras.
Non, mais bien sûr.
Non, mais sur les juges, je voulais quand même dire une chose.
Par exemple, je fais juste une parenthèse. À TF1, Gérard y était, on a connu une entreprise, on voyageait en première, en TGV. Aujourd'hui, tout le monde voyage en deuxième. Bon, je ne sais pas si les fonctionnaires d'État voyagent en deuxième ou en première.
Pour un fonctionnaire d'État, se faire rembourser un billet de TGV, c'est très compliqué.
Maintenant. Non, ce qui est terrible dans l'affaire
et c'est ce que j'appelle
dans l'affaire du garde des Sceaux, c'est d'avoir les juges ont dit la vérité, il faut les exécuter. Vous verrez la carrière des magistrats de Marseille.
Bon, on va marquer une petite pause, mais je vois que votre doigt n'est pas réparé, si j'ose dire, donc je suis un peu inquiet.
Non, mais il faudra m'opérer.
Ah bon?
Ah oui. Vous savez. Le cancer, on en parle quand c'est des cancers graves, mais il y a des petits cancers de la peau Et là, c'est un petit cancer de la peau. Je le dis parce que vous me posez la question.
Bah oui, parce qu'on voit. Moi, je
savais pas. Ça s'appelle un carcinome. Et, voilà.
Et donc, on va vous opérer.
Et on va m'opérer, oui. Et avec une anesthésie générale, peut-être que vous ne me reverrez pas sur le plateau.
Non,
mais vous me posez la question, je vous ai répondu.
Bah, l'anesthésie générale, c'est les fonctionnaires d'État depuis 40 ans, manifestement. Ils l'ont bien. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, l'OMIG, Guillaume, qu'on peut écouter tous les matins sur CNews. Je vous remercie grandement.
Merci Pascal.
Vous avez été complet sur cette affaire de dette. Et on va recevoir Pascal Bruckner, Je souffre donc je suis. Ce livre est formidable. Vous restez avec nous, Gauthier ?
Mais si vous me le permettez, moi je savais que je suis.
Oui, bah, oui.
Portrait, si je peux rester, je reste. Hein.
Portrait de la victime en héros, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable parce que c'est le monde d'aujourd'hui. A tout de suite. Pascal Bruckner est avec nous, Je souffre donc je suis. C'est vraiment un livre formidable, c'est un livre de l'époque. Et c'est vrai que pour notre génération, on pensait que ce qui nous arrivait, on était un peu responsable. Donc on faisait en sorte de changer les choses. Et je vois la jeune génération, il y a une fracture générationnelle, elle exclut souvent sa responsabilité sur les malheurs qui lui arrivent. Et effectivement, c'est jamais de sa faute, elle souffre.
C'est extraordinaire d'entendre ça, c'est les baby-boomers qui ont saboté ce monde et entendre un truc pareil. Ils se sont gavés en pensant que...
Bon, à grands traits, c'est jamais de leur faute. Oui, je souffre et chacun se dit offensé d'une plaisanterie, offensé d'un statut, offensé d'une situation, etc. Donc je souffre des... donc je suis... bonjour Monsieur Bruckner.
Oui, bonjour Pascal Praud. Oui, alors ça a commencé avec ma génération, les boomers... qui ont été très gâtés dans l'histoire du XXe siècle.
Merci.
Parce qu'on n'a pas eu de maladie, on n'a pas eu de prospérité, le sida est apparu tardivement, mais malgré tout, on encaissait un certain nombre de choses et il y avait un stoïcisme spontané dans les familles. Les parents disaient « arrête de te plaindre, ce que tu as, c'est pas grave, travaille, fais des efforts ». Et ça a complètement disparu après mai 68, avec les réformes sur l'éducation nationale, où les enfants ont été éduqués dans l'idée qu'il ne fallait surtout pas travailler trop, que les enseignants étaient des oppresseurs, et qu'il fallait viser l'épanouissement et le bonheur des petits plutôt que de leur fourrer dans la tête des matières obscures. Et c'est vrai qu'on arrive à la génération actuelle, la génération YZ, qui est une génération fragile. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du petit pois. C'est-à-dire qu'au fond, c'est des enfants, maintenant devenus des adultes, qui, au moindre choc, tremblent, se vexent. Et je cite dans le livre cette réflexion de Barack Obama, qui va dans une université en 2014, et qui dit aux étudiants, la faculté n'est pas une nurserie. Vous n'êtes pas là pour être pouponné, vous êtes là pour apprendre et pour travailler. Et c'est l'institution aussi aux États-Unis, parce que malheureusement, tout ça nous vient beaucoup des États-Unis, des safe space, c'est-à-dire des bulles psychologiques où les gens s'enferment pour être tranquilles, à l'abri des tracas du monde extérieur.
Alors, c'est formidable votre bouquin, bien sûr, on va en parler avec vous, et ça nous permet d'avoir un peu de réflexion sur notre époque. Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
Plus de sécurité dans certains lycées franciliens, des mails parlant d'attentats et une vidéo de décapitation ont été envoyés à plusieurs établissements élèves et enseignants. La piste du canular serait privilégiée, une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs. Nouvel appel à l'aide de Kiev, Volodymyr Zelensky réclame plus de systèmes antiaériens à l'Occident, demande quelques heures seulement avant le sommet européen de cet après-midi consacré à la guerre en Ukraine. Et puis, nouveau projet de résolution à l'ONU. Washington appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cessez-le-feu assorti à la libération des otages, alors qu'Anthony Blinken est en Égypte pour faire avancer les pourparlers.
Merci beaucoup, Somaïa. Et en vous écoutant, parce que souvent, ceux qui nous écoutent savent peut-être ce que je vais dire, mais je me disais qu'il n'y a qu'un domaine qui échappe à ça. Et c'est toujours le même, parce qu'on ne peut pas tricher, c'est le seul. Le sport.
C'est le sport.
Le sport.
Oui, c'est le sport.
On ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher au sport parce qu'on est confronté à sa réalité. Et puis un entraîneur, il n'est pas là pour. Alors, c'est pas une pouponnerie, un vestiaire.
Oui, oui.
Deschamps, c'est pas.
Non seulement on ne peut pas tricher, mais le spectateur demande de l'effort, de la souffrance, oui. Des gens qui se dépassent, qui sont même prêts à mourir pour réussir un record. Mais par contre, dans les autres domaines, et même l'argent, le sport est le domaine où l'argent est sacré. Le fait que des footballeurs gagnent des millions ou des milliards ne choque personne. En revanche, peut-être pas, non, mais des millions, c'est déjà beaucoup. En revanche, quand c'est un grand patron ou un petit patron qui gagne bien sa vie, là, on pointe un doigt accusateur sur lui, surtout en France.
Mais alors, par exemple, l'école, parce que l'école, c'est intéressant. Est-ce que c'est une... Parce que, à la limite, si c'était une bonne chose que l'école devienne une nurserie. Alors, on va prendre un exemple. Avant 68, il y avait un classement. Vous, par exemple, lorsque vous avez été à l'école, j'imagine, vous aviez un classement. Vous
saviez. Oui, et assez rigoureux.
Assez rigoureux. Bon, vous étiez premier, j'imagine.
Non, mais enfin, deuxième. Sauf en maths. En maths, j'étais dernier.
Bon, le classement a été supprimé après 68 parce que c'était vraiment humiliant, d'ailleurs, pour celui qui était dernier, j'imagine. C'était pas simple, bien évidemment. C'était peut-être pas... Bon. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que c'était mieux d'avoir un classement? Est-ce que c'est mieux de dire à quelqu'un qu'il est mauvais? Ou en tout, parce qu'il peut peut-être progresser. Puis mauvais, ça veut rien dire. Il est dernier, c'est pas parce qu'il est dernier qu'il est mauvais. Il pourra peut-être se débrouiller dans d'autres activités. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est ça la question aux philosophes que je pose.
Le mieux, c'est de ne pas mentir aux étudiants, aux élèves, même s'ils sont petits. C'est de lui dire, tu as des domaines où tu es faible, mais tu peux t'améliorer et on va tout faire pour t'aider. On peut te donner des cours particuliers, on peut te mettre dans une classe où tu seras entouré. Mais aujourd'hui, tout le système est fait pour raconter des histoires aux élèves et pour leur dire, quoi qu'il arrive, vos notes seront toujours assez bonnes pour vous. D'ailleurs, tous les profs vous le disent, notamment dans les cités, dans les banlieues, on met un peu la moyenne à monsieur X ou monsieur Y, parce qu'au fond, c'est pas si mal pour lui. C'est-à-dire, c'est une forme de mépriser, une façon de mépriser l'élève et de lui dire, bon, bah, t'es pas très malin, tu viens d'un milieu défavorisé, donc tu passeras à la classe supérieure, même si ton niveau est lamentable. Et donc, ça fait que le bac est devenu un diplôme qui n'a plus aucune valeur. Le bac est presque un droit de l'homme aujourd'hui.
Oui, c'est ce que disait Alain Finkielkraut, disait ça dans une interview, c'est un droit de l'homme.
Vous naissez avec le bac en poche et c'est la possibilité pour tous d'accéder à un diplôme qui n'a plus aucune...
Bon. Est-ce que ça peut changer, peut-être, à votre avis, ou est-ce que là, toutes les sociétés occidentales...
Ce qui est en train de changer, c'est tout simplement la réalité. La réalité, c'est que les écoles privées fleurissent, que les grands lycées parisiens, qui sont menacés évidemment par l'égalitarisme ambiant, résistent aussi à ce mouvement, et qu'au fond, les parents savent très bien que sans travail, sans effort, sans discipline, sans classement rigoureux, si vous n'êtes pas bon dans une matière, ben faut passer à autre chose. C'est pas à peine de s'obstiner, c'est ça. Mais là, on fait croire à tous que le mouvement vers l'avant est irréversible et qu'ils seront gagnants quoi qu'il arrive. Et ce qui fait que quand on arrive dans la première année de fac, les profs sont effarés par la nullité de certains élèves. Ils ne savent ni écrire leur nom, ni lire.
Ah, peut-être pas écrire leur nom quand même.
Ils écrivent leur nom, mais trois fautes d'orthographe, c'est ennuyeux.
Les fautes d'orthographe sont multiples. D'ailleurs, on ne les compte pas. Ouais. Et là, en venant ici, j'avais un chauffeur de taxi d'origine camerounaise qui me disait que son fils a 9 ans. Les dictées qu'on lui donne, c'est quelques lignes. C'est-à-dire que c'est même plus un texte complet, c'est quelques lignes, parce qu'il ne faut pas vexer l'enfant, il ne faut pas l'humilier. Il faut éviter d'humilier l'enfant, parce que l'enfant est une personne qui doit s'épanouir, alors que nous, on travaille...
Est-ce que c'est une bonne chose? C'est la même question que je posais tout à l'heure.
Non, c'est pas une bonne chose.
Parce que l'humiliation, c'était pas agréable non plus. Moi, j'ai cité un exemple. J'avais une professeure en 6e, 5e, 4e, 3e, c'était la même professeure de français, s'appelait Mademoiselle Raboteau. On faisait une rédaction tous les 15 jours. Et quand elle rendait ses copies tous les 15 jours, elle partait de la meilleure note et devant tout le monde. Et elle disait, Bruckner, 15, bien, bravo, etc. Elle faisait un petit commentaire. Et puis elle égrenait tous les noms de la classe, ça durait une demi-heure. Et quand tu avais passé 10, 11, tu disais, oh là là.
Parfois on fait
9 ans. Alors celui qui avait 3, 4 et qui entendait, bidule, vous êtes très mauvais, vous n'avez aucune culture générale, vous écrivez n'importe quoi, c'était humiliant. C'était humiliant, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous pose la question.
Alors, on n'est pas obligé d'humilier les élèves en public, mais on n'est pas obligé non plus de rehausser leurs notes pour les tromper sur leur qualité réelle. Parce que c'est ça, c'est une tromperie. Et donc, ça n'est pas comme ça qu'on élèvera le niveau de l'école en général.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est tromperie à tous les niveaux, puisque lorsque des magistrats disent la vérité, ils sont engueulés par Éric Dupond-Moretti. Donc, tout le monde triche.
Oui, non, tout le monde triche. Mais là, on reste dans le domaine de l'école. Il n'y a pas d'école sans arrachement à soi-même, sans, sans volonté de s'affronter à des matières qu'on ne connaît pas et qui sont difficiles. Et donc le fait de dévaloriser le travail à l'école, comme d'ailleurs dans le monde de l'entreprise, me paraît être un très mauvais service rendu aux Français.
Dans l'entreprise, c'est différent, parce que ça peut être plus exigeant.
Oui, ça peut être plus exigeant, mais... Dans un premier temps, on apaise les parents qui disent « Ah ben mon fils ou ma fille, ils sont très bons ». Et finalement, on s'aperçoit qu'ils sont dupés. C'est une duperie collective et que l'on paye très cher. Et regardez les pays qui réussissent aujourd'hui, notamment en Asie, c'est les pays où là, on pressure les enfants. Alors c'est la culture de l'humiliation, je suis d'accord, ça n'est pas bien, mais les résultats sont quand même très probants.
Alors, il y a beaucoup de choses évidemment dans votre livre. Je souffre donc, je suis. C'est d'ailleurs un essai chez Grasset. Vous parlez d'un génocide généralisé dans les relations hommes-femmes, ce qui est tout à fait étonnant. Les relations hommes-femmes, comment les penser par le seul biais du crime contre l'humanité? Oui. Nous dit un certain féminisme nord-américain. Dans les années 80, l'activiste Andrea Dworkin, je ne sais pas si je le prononce bien, voit dans l'industrie du X un instrument de génocide, ou pour le dire d'un mot, d'achat introduit dans la chambre à coucher et célébré.
Oui, c'est un peu excessif, je trouve.
Bah, c'est vous qui le...
C'est un peu excessif, mais non, c'est-à-dire que... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de proposition? C'est-à-dire que depuis les années 80, le génocide est devenu le critère global de la souffrance. Et donc, toute personne qui est mal dans sa peau, qui a souffert d'une humiliation ou d'une blessure, se dit, mais en fond, je suis semblable aux déportés qui sortent des camps. Et c'est la course aux extrêmes. C'est la logique du pire. Toute affliction doit être immédiatement alignée sur le crime maximal. Et on voit bien qu'alors il n'y a plus aucune proportion, il n'y a plus d'hierarchie. On ne sait plus distinguer les petits tracas des véritables tragédies. Et c'est ça au fond le dolorisme actuel, c'est que toutes les contrariétés sont mises sur un plan excessif. L'éducation traditionnelle que j'ai reçue, que vous avez peut-être aussi reçue, oui. Pascal, c'est de dire, arrête de te plaindre, c'est rien, oui. Tu vas surmonter ça. C'était dur, mais enfin, ça nous a quand même beaucoup aidé. Et aujourd'hui, si on explique aux minorités, ou aux enfants, ou aux femmes, ou à d'autres catégories, que le moindre tracas est effectivement abominable, qu'on doit faire preuve d'une hypersusceptibilité, que les micro-agressions finissent par constituer un crime contre l'humanité, alors là, on n'en sort plus. Et donc, les gens se vexent pour un rien, pour une broutille. Vous savez, aujourd'hui, il faut dire bonjour à tout le monde quand on veut un renseignement. Quand vous dites « Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, madame, pouvez-vous me dire où se trouve la rue ?»« Oui, bonjour, monsieur. » On dit bonjour. On dit, bon, ok, je ne savais pas qu'il fallait être si poli dans la France de 2024. « Oui, bonjour, monsieur. » Voilà, tout d'un coup...
Oui, mais par exemple, si, parce que c'est toujours les exemples qui sont intéressants. Si une femme... Si un homme pose, par exemple, sa main sur le genou d'une femme, et si la femme dit « Pour moi, j'ai vécu ça comme une agression, une humiliation, une offense terrible, etc. » Si derrière, vous arrivez et vous dites « Bon, c'est peut-être pas très grave ce que tu as vécu », je pense que c'est un discours qui n'est pas audible. Et
non,
qui mettra du côté des harceleurs. Il faudra prendre en compte ce qu'elle dit, sa souffrance... Cet exemple est intéressant et dira, mais moi, ça, j'ai été traumatisé, je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis senti humilié, vous ne vous rendez pas compte, etc. Et ce discours-là, c'est très compliqué de le contrer.
Oui, ben alors vous avez le même exemple avec les hommes. Vous avez un homme qui doit avoir une trentaine d'années maintenant qui a porté plainte contre André Téchiné parce que dans les années 70-80, Téchiné lui a posé la main sur la sienne et lui a dit, vous me troublez. Bon, pourquoi pas ? Et il dit que ça l'a traumatisé, que ça a ruiné sa carrière. Et donc, alors ça, c'est un autre aspect de la victimisation. On amplifie excessivement les tout petits incidents de la vie quotidienne. Donc, on vous a mis la main aux fesses. Alors là, c'est carrément l'équivalent de la Shoah. On vous a posé la main, c'est la fin du monde. Il faut savoir relativiser quand même. Il y a des souffrances abominables. Et il y a des souffrances, et il y a des petites douleurs qui peuvent vous vexer, mais on les règle soi-même, on les règle directement.
Il y a peut-être un juste milieu à trouver, parce que dans la génération de nos parents, les traumatismes étaient tus, qu'ils soient de nature violence sexuelle ou de traumatisme de la guerre, les traumatismes étaient tus, ça donnait de belles névroses, hein. Et ça pouvait être d'une grande dureté. Y compris pour les générations suivantes, pour les enfants. Donc on est passé du silence sur toutes ces souffrances à l'exposition de toutes ces souffrances. Oui. Peut-être qu'on pourrait...
Oui, on peut faire. Mais moi, je vous rejoins absolument sur la dénonciation de cette humanité, je le victimaire. Comment, à votre avis, faire tout de même le départ entre les sollicitudes qui sont méritées pour des gens qu'on ne veut pas laisser au bord du chemin et cette manière obsessionnelle de se poser comme victime dans la vie, dans tous les secteurs où ça existe? Comment, à votre avis, on peut faire finement le départ? C'est pas évident.
Ah ben c'est tout le débat. C'est un problème politique, philosophique. Mais je pense qu'il faut distinguer très nettement le souci pour les victimes, qui est une conquête de la civilisation. Ça, c'est un héritage du christianisme. Et c'est imparable. Si on ne se soucie pas des faibles et des vulnérables, on entre dans la barbarie. Mais là-dessus se greffe une stratégie, qui est la stratégie de la victimisation systématique, où n'importe qui veut s'accaparer l'aura du paria ou de l'opprimé en disant « Regardez, moi aussi je souffre, moi aussi je suis une victime, moi aussi je rentre dans la sainte famille des damnés de la terre ». Et à ce moment-là, ça vous donne une aura, une auréole, parce qu'on est dans une forme de sacralité véritable. Et à partir du moment où vous accédez au statut de victime, vous avez tous les droits et vous êtes déchargé des obligations ordinaires de l'être humain. Et c'est ça qui, c'est là que les politiques, que les intellectuels,
c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Je suis d'accord avec vous, mais bon,
comment on va le changer?
Au plus haut niveau qu'il soit changé. Voilà, c'est ça.
Alors d'abord, c'est les juges. Mm-hmm. Les juges sont là pour distinguer entre les plaintes recevables et les plaintes irrecevables. Mm-hmm. Je vous citais tout à l'heure cet exemple du jeune homme qui, ayant eu la main de Téchiné sur la sienne, dit qu'il a été traumatisé, il a porté plainte. Et le juge, je crois que le juge d'instruction a dit, on attend peut-être un petit peu, il y a des dossiers plus urgents. Donc c'est à la justice, évidemment, de se prononcer.
Et c'est un état d'esprit aussi du politique, me semble-t-il. Alors, on va continuer tout à l'heure la discussion, mais je voulais quand même, parce que dans notre actualité, on a beaucoup été, on a beaucoup parlé dans la première partie, et on a peu vu de sujets. Je voulais qu'on refasse rapidement un petit point sur Marseille, avec le sujet de Maxime Le Guay. Et faut quand même...
Les points de deal sont revenus aussitôt.
Non, dites quand même pas ça.
C'est pas une opinion, c'est un fait.
Ils sont même à côté.
C'est pas une opinion, c'est un fait.
J'espère que c'est pas ça. Ça m'ennuie de le dire, en tout cas. Voyons le sujet de Maxime Le Guay et on en parle ensemble.
Nous ne lâcherons rien. C'est ce qu'a affirmé hier le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Avec l'opération PlaceNet XXL, les dealers ne sont pas prêts de se réinstaller dans la cité de la Castellane.
Certains ont vu des individus revenir, ont pu penser que des dealers revenaient. Nous sommes là, les policiers CRS, les policiers de la sécurité publique sont là en présence en permanence. Et la nuit, nous avons aussi nos équipages civils.
Aucun répit n'est donc laissé aux dealers. Pourtant, Spanish, un jeune dealer de 16 ans, ne semble pas très préoccupé par cette présence policière.
Si, on peut travailler si on va ailleurs.
Il dit vivre en foyer et avoir besoin d'argent.
Je vends, je guette, je fais tout. C'est que c'est pas bien, mais c'est le moyen pour gagner des sous. Après, il y en a d'autres, je sais.
Un trafic qui lui rapporte une somme conséquente.
Entre 500 et 150 par jour.
Selon les autorités, les différents points de deal de la cité rapporteraient entre 50 000 et 80 000 euros par jour.
8 kilos de cannabis, 340 grammes de cocaïne saisie depuis lundi et cette opération PlaceNet XXL. Excusez-moi, c'est pas XXL comme saisie.
C'est le début, il faut être quand même, faut essayer d'encourager.
Mais vous voyez pas comme d'Emmanuel Macron, non?
Oui, mais même la visite.
Ça m'ennuie, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je veux bien qu'on tape tous les matins.
C'est pas taper, c'est les points de deal. Regardez dans le sujet, on vient de diffuser un sujet.
Oui, mais voilà. Gauthier, c'est très vrai. Alors, Gabriel Attal avait dit que les forces de police demeureraient un certain temps. Mais comme on envisage ces opérations dans plusieurs villes, la police n'étant pas extensible... mais là où je rejoins Pascal, il y a une once d'optimisme à avoir. C'est tout de même important que cette visite, même si les conséquences ne vont pas être aussi brillantes.
C'est la 13e ou la 15e en
2017. La 17e à Marseille.
Peut-être que là, quand même, il y a un déclic. D'abord, il y a manifestement la parole des magistrats.
C'est vrai qu'il y a un déclic quand vous allez engueuler les magistrats qui ont dit la vérité au Sénat.
La parole des magistrats était une déflagration.
Oui, mais ils se sont fait engueuler par le garde des Sceaux.
Oui,
Donc il a dû le faire avec l'autorisation du président de la République.
Oui, mais parce qu'une sinistrose judiciaire, il y en a assez. Quoi. Tout le monde l'a fait, le constat.
Mais non, mais ça, ils étaient sous serment.
Mais si.
C'est la position de Pascal Bruckner. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est la vérité. Pardonnez-moi.
Mais justement, la sinistrose...
Mais ce n'est pas de la sinistrose, c'est la vérité.
Il y a une certaine manière de répéter que tout va mal. On le sait depuis des années.
Non,
le
constat.
Mais si.
Mais non.
Le constat, il est...
Tout va très bien.
Non. Mais non, il faut se mettre à l'action. Ça ne sert à rien de faire un constat qui est fait depuis des années partout. Il faut introduire dans le monde d'aujourd'hui un petit peu de désir de réparer le mal.
Mais c'est la première fois qu'on entend des magistrats dire des choses comme celles qu'on a entendues.
Mais elles existaient.
Elles existaient, mais personne ne
le disait. Et que leur dit l'exécutif, vous n'auriez jamais dû le dire. Voilà.
Mais la narcoville, c'est quand même le premier aphorisme qui est utilisé par des magistrats qui s'expliquent sous serment. Ouais. Là, c'est vraiment... la lucidité sur la situation de Marseille. Et je rappelle que Marseille, c'est pas simplement ce qui se passe à Marseille, c'est un préfiguratif de ce qui se passe en France, hein, ce qui s'est passé à Marseille. En revanche, moi, ce que je voulais dire, là où il faut saluer effectivement l'efficacité, c'est lorsque Gérald Darmanin travaille avec les services marocains pour interpeller le chef de la IODA. Là, il y a de l'efficacité parce qu'il y a une réelle... concertation entre différents services.
Ça, c'est
les
magistrats ont eu tout à fait raison de dire ce qu'ils ont dit. Non. Mais il faut arrêter, ça n'est pas une révélation.
Si, Narcoville, c'est nouveau.
La France est très douée dans les constats.
C'est comme le narcomicide de la préfète des Bouches-du-Rhône.
J'ai des aveugles autour de la table. Philippe Bilger, c'est le prénom qui doit faire ça. Philippe Bilger.
Mais on est tous sauf aveugles. On cherche à introduire dans votre propos toujours un petit peu, j'allais dire, non pas sommaire, mais qui mériterait plus de complexité, un petit peu...
Il a pas tort. Bruckner,
oui.
Qui est beaucoup plus complexe que moi. Parce qu'il est
non, pas du tout. Là-dessus, je suis, comme vous, désemparé. Ma question, c'est qui ferait mieux? Voilà. Quel est le parti politique qui a un programme pour lutter contre les narcotrafiquants? Il faut bien voir que dans le monde entier, la lutte contre la drogue est un échec.
Alors là, il va vous citer l'état de Salvador.
Monsieur Bruckner,
non.
Oui.
Non.
Oui, alors il y a Salvador, vous avez raison.
Non,
le Salvador est en
Italie. Moi, la Belgique, enfin, ce sont des narco-états, clairement dit.
Oui.
Sabrina.
Pardon.
Oui.
Non, mais en revanche, vous pouvez parler, mais ne parlons pas les uns sur les autres.
Très bien, très bien.
Non, mais vous aviez la parole.
Oui. C'était pour dire simplement qu'effectivement, même les États aujourd'hui n'ont plus les moyens de ces enjeux-là.
Et parce qu'ils ne veulent pas. En fait, nous, ce que nous disons modestement, c'est que rien ne changera. Parce que ce qu'il faudrait faire pour que ça change, personne ne le fera en France. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas de solution, parce qu'au Salvador, ils l'ont trouvé.
C'est une dictature. Enfin, bon, pour l'instant, c'est expérimental. Il faut voir si ça peut se propager dans le reste.
Mais c'est une dictature.
Oui, c'est une dictature. Avec,
voilà. Est-ce qu'on est prêt à payer est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là ?
Un taux d'innocents emprisonnés qui est considérable. Si vous emprisonnez tout le monde, forcément, c'est plus simple.
Non, il y a des problèmes d'état de droit de là, qualifier le Salvador de dictature. Il y a un problème. C'est clair que l'état de droit est enjambé.
Il a été réduit, oui.
À mon avis, le terme dictature, c'est pas le bon.
Bien sûr, c'est pour ça votre...
C'est un régime très autoritaire.
Mais votre grille de lecture, elle est plus adaptée. Les gens ont voté à 87%.
Oui,
mais
ils sont très satisfaits, lui, d'ailleurs.
Eh bien, ils veulent plus de... ils ne voulaient plus de narcotrafiquants. Mais laissez-moi terminer.
Je vous en prie.
Vous posez la question. Dans quel contexte? Vous sortiez dans la rue, vous étiez tué. Voilà le contexte.
Comme à Marseille.
Vous donnez un autre contexte.
Ce qui préfigure peut-être demain Marseille.
Est-ce que je peux vous donner un autre contexte en allant chercher une démocratie plutôt qu'un régime très autoritaire?
Mais c'est
un juste milieu entre la France et le Salvador.
L'Italie est venue à bout de la mafia en Sicile. C'est une démocratie. Ils ont fait un parquet spécialisé. Il y a eu des super procès. Ils ont mis des techniques au point pour obtenir des repentis. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas plutôt modèle sur l'Italie vis-à-vis de la Sicile, vis-à-vis de Cosa Nostra, où les gens se faisaient tuer dans la rue à Palerme tous les jours dans les années 80.
Pascal Bruckner est un meilleur exemple. Quand nous maudissons notre pays, parce qu'il faut être positif. Et là, Philippe Bilger, quand nous maudissons notre pays, notre système politique, il n'est pas inutile de regarder du côté des vraies dictatures pour comprendre les privilèges dont nous jouissons.
Était en train de dire.
C'est pour ça que
c'est vrai que les Français ont tendance systématiquement à se piétiner, à se flageller. et à considérer qu'ils vivent dans le pire des pays du monde, sans voir qu'à quelques milliers de kilomètres de chez nous, les conditions sont bien pires. D'ailleurs, c'est ce que disent tous les migrants qui arrivent chez nous. Quoi qu'on pense par ailleurs de l'immigration sauvage, c'est qu'on se plaint énormément. Vous savez, il y a un jeune Syrien qui est venu en France et qui a acquis la nationalité française. Et il est très étonné devant les discours virulents contre le patriarcat. Il dit, mais je ne comprends pas exactement. Nous, le patriarcat, on l'a dans les pays arabo-musulmans. Il domine, il écrase les femmes, il nous maintient dans la soumission. Vous, vous jouissez d'un nombre de droits inconsidérés. Et vous continuez à vous plaindre, vous continuez à dire que vous vivez sous le joug d'une dictature. Et c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est un discours d'enfant gâté. Dans le féminisme, par exemple, on voit qu'il y a une déchirure très forte, puisqu'il y a plusieurs féministes, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, entre les universalistes qui défendent les iraniennes, les afghanes, les saoudiennes, et celles qui disent, mais non, la cause des femmes, c'est la même partout, et l'homme est un oppresseur, sans tenir compte quand même des changements extraordinaires qui ont eu lieu depuis 1945. Et quand même,
par exemple, dans la Constitution, est un exemple intéressant.
Voilà, l'État de droit, ça n'est pas une dictature. L'État de droit signifie un certain nombre de choses, un changement dans les comportements, et c'est plutôt très positif pour les hommes comme pour les femmes.
Oui, c'est très juste ce que vous dites sur le féminisme différentialiste, mais elles choisissent toujours leurs victimes et leurs bourreaux. C'est tellement plus facile de s'attaquer à l'homme blanc hétéronormé de plus de 50 ans que de s'attaquer à certains parce qu'ils ont des origines ou qu'ils appartiennent à une religion sous prétexte qu'il y a cette convergence des luttes des racisés. Hein, je mets ça entre 15 guillemets parce que c'est effectivement ce qui les intéresse, c'est la lutte de tous les racisés considérés voilà, comme des opprimés. C'est le vrai problème. Quand on voit ce qui s'est passé avec Gérard Depardieu qui était une cabale, justifiée ou pas, mais ça a été une cabale. J'entends, on voit Sandrine Rousseau hier qui s'offusque des codes de virilité toxique. Je ne l'ai pas par exemple entendu lorsque Caris, le rappeur qui a fait un concert quasi pornographique, je ne l'ai pas entendu s'insurger sur la condition de la femme précisément mise en scène dans ce spectacle.
Oui, c'est parce que le néo-féminisme est en quelque sorte inhibé par l'antiracisme. Et donc il se dit que si on accuse des gens d'origine du Sud, on va être raciste. Et on aboutit à la phrase que je trouve terrible de Judith Butler, ouais, expliquant que, au fond, les viols du Hamas, c'est un acte de résistance. Voilà. Et elle est soutenue par un certain nombre de féministes, dont Annie Ernaux et d'autres. Et je trouve ça terrible. C'est un renversement complet des valeurs. Le viol qui est unanimement condamné dans notre pays, unanimement, personne ne le soutient, devient tout d'un coup brandi comme un trophée parce qu'il est accompli par des gens qui résistent au colonialisme,
Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, écrivain chez Gallimard depuis de nombreuses années, qui a écrit d'ailleurs des livres intéressants comme Les Années.
Moi, très bon livre, oui, bien sûr.
J'avais apprécié, mais qui est une militante de la France insoumise.
Qui tient la France insoumise. Et Sandrine Rousseau, dans sa grande diatribe contre nous, il y a deux jours chez Jean-Jacques Bourdin, nous a reproché de parler du viol de Claire, violée par une personne sous OQTF, parce que ce n'était pas la bonne victime, ni le bon bourreau. Il ne fallait pas parler de Claire violée, parce qu'elle a été violée, effectivement, par une personne sous obligation de quitter le territoire français.
Mais ça, c'est horrible, c'est horrible. Le féminisme se suicide en faisant ça. C'est épouvantable. Je trouve que là, c'est incompréhensible.
Et oui, mais vous êtes un boomer.
Je suis un vieux boomer, oui.
Vous êtes un boomer, vous êtes tout ce qu'elle déteste, pardonnez-moi de le dire.
Oui, mais enfin, elles sont aussi des boomeuses. Annie Ernaux n'est pas...
Mais elle a un avantage sur vous, c'est une femme.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, il faut vivre aussi avec le sentiment d'être cornérisé. Donc, il faut parler petite geôle masculine.
Bon, croire les victimes sur parole, c'est courir le risque de confondre une plainte justifiée avec une dénonciation calomnieuse.
Oui, et ça, c'est d'ailleurs des avocates féministes pénalistes qui le disent et qui disent que c'est absurde de penser que les femmes, parce qu'elles sont femmes, disent toujours la vérité. Et je rappelle dans le livre que le fait que les femmes aient été opprimées pendant des siècles est réel, mais que ça ne les a pas empêchées, quand elles avaient le pouvoir, de se conduire de façon abominable, tout comme les hommes. Il y a deux grands exemples, c'est les capots dans les camps de concentration, qui, d'ailleurs, certaines ont été pendues au moment de la libération d'Auschwitz ou de Buchenwald, tellement elles avaient commis des atrocités. Et puis, c'est les femmes qui se sont engagées dans Daesh, et qui sont terribles aussi, qui ont vu un moyen de promotion et qui pratiquent la torture, l'esclavage, la mise à mort. Certaines ont été condamnées aussi en Allemagne à 10 ans de prison. Donc le fait que la femme ait été opprimée ne fait pas d'elle un ange sous l'éternité. Je ne suis pas sûr qu'une société régie par le matriarcat serait plus agréable à vivre qu'une société régie par le patriarcat. Là aussi, il faudrait arriver à un équilibre des deux tendances.
On a un petit privilège de la violence, nous les
hommes. Comment ?
Les hommes sont plus violents.
Oui, mais les femmes sont capables de violence. Je cite le cas d'une footballeuse.
Psychologique.
Je cite le cas d'une footballeuse à qui une concurrente a brisé les jambes à coups de barres de fer. Non, c'est une question de moyens, mais quand elles le veulent, les femmes peuvent être aussi violentes que les hommes.
90%, je crois, des violences
conjugales. Non, bien sûr. Mais n'idéalisons pas une victime parce qu'elle a été opprimée. Une fois qu'elle arrive au pouvoir, elle peut être se montrer aussi cruelle que ses anciens bourreaux.
Je souffre donc, je suis, c'est de Pascal Bruckner. Somaïa Labidi va nous rappeler les titres. Grasset. Vous avez toujours publié d'ailleurs Lune de Fiel, ça date de quelle année?
Ah, c'est 81.
C'était au Seuil. Mais Lune de Fiel, vous pourriez le réécrire aujourd'hui?
Ah, aujourd'hui, je pense. Pensez... Bon, il faudrait que je change d'identité.
Ouais. qui avait été adapté d'ailleurs.
Par Polanski, oui.
Voilà.
Et un bon film.
Mais bien, et un bon livre.
Un bon livre, oui.
Un roman.
Oui, c'est
81, dites-vous?
80, c'est le roman de la jeunesse, oui. C'est le roman de l'excès. C'est le roman des excès.
Ah, écoutez, moi j'ai lu ça alors en 80, 82. Et... On était en terminale.
C'est un roman qui a eu un énorme succès.
Énorme succès,
oui. Énorme, mondial,
oui. Exact. Ah oui.
Oui.
Somaïa Labidi.
Un dérapage budgétaire qui se confirme. Selon Thomas Cazenave, le déficit public devrait être supérieur à 5% du PIB en 2023. Situation de crise à l'Élysée où Emmanuel Macron a enchaîné les réunions hier soir. Un phénomène mondial. Plus de la moitié des pays observent une baisse de la fertilité et à l'avenir, les taux de fertilité vont continuer à décliner selon une étude parue dans The Lancet. Et puis, évacuation en urgence des ressortissants américains d'Haïti. Des hélicoptères balayent le ciel de Port-au-Prince, direction Saint-Domingue, en République dominicaine. Objectif, évacuer un maximum de citoyens face à l'embrasement qui règne sur l'île.
Beaucoup de sommeil. Pascal Bruckner est avec nous ce matin. Je vous souffre donc, je suis. Alors, ce qui est agréable, c'est que, évidemment, ça permet de réfléchir. Mais vous pensez aussi aux lecteurs. C'est très bien écrit et c'est très facile. De lire ce que vous écrivez. Vous parlez de la mort, alors qu'elle était pour les Grecs et les Latins une fatalité inévitable. La souffrance est pour les premiers chrétiens la rançon de la chute, le salaire du péché originel. Le sort est injuste, le mal frappe au hasard les innocents et les enfants, mais dans le livre de Job, Dieu pourvoira à la félicité des méritants. La mort n'est pas une fin, mais un pont vers l'inconnu du jugement dernier.
Oui, alors on est sorti de cette période. Moi, j'ai eu une enfance entièrement catholique, quasiment de la naissance au bac. J'étais chez les curés, chez les jésuites, et on nous enseignait qu'effectivement, la souffrance était le salaire du péché. On souffrait parce que c'était comme ça, et quand on était malade, c'est Dieu qui décidait, c'est ce que nous disait le prêtre, c'est Dieu qui décidait de la guérison ou non. Et le médecin, il était un peu mis de côté, parce qu'au fond, les fins dernières étaient déjà écrites. Alors, c'est une très bonne chose qu'on soit sorti de cette mentalité que je détestais déjà à l'époque. Et on a remplacé l'idée de rédemption par la souffrance par l'idée de réparation, qui date du début du 19e siècle, dans le Code civil. Il vous arrive un malheur, vous avez le droit à des compensations, à des indemnités.
Precium doloris.
Oui, c'est déjà le prix de la douleur chez les Romains. Et ça a été inscrit dans le Code civil, et notamment face aux accidents dans le monde du travail, les chaudières qui explosent, les locomotives qui déraillent, l'homme crée des outils qui le dépassent et qui peuvent le détruire. Mais alors aujourd'hui, dans cette quête de suppression de la souffrance, on est arrivé à un phénomène inverse, c'est-à-dire que le devoir de bonheur qui est à l'origine de nos sociétés se transforme en une sorte de panique face à la moindre détresse. Je parlais tout à l'heure du syndrome du petit pois. L'hypersusceptibilité de nos contemporains et à la moindre petite maladie, c'est la religion non pas des bobos mais du bobo. Le moindre bobo est amplifié et les gens vont chez le médecin, d'ailleurs qu'ils le disent.
Chez les psys. Nos enfants, je ne parle pas des miens bien sûr, mais quand je dis tous les enfants, toute cette génération, ils sont tous chez le psy.
Chez les psys.
Ils sont tous au psycho quelque chose.
Ça a commencé tôt. Hein, ça a commencé
alors, là où Philippe, Philippe a raison, c'est que ça faisait des belles névroses
oui.
dans l'ancienne
mais
génération.
On sait très bien que c'est névrose. Hein.
Oui.
On vit bien.
On est tous névrosés.
Oui, on est tous névrosés, mais on arrive à cohabiter avec sa névrose et en faire quelque
chose. Mais c'est quoi votre névrose, vous, par exemple?
Moi, j'en ai sans doute beaucoup.
Oui, mais c'est quoi la vôtre?
Je ne la connais pas.
Ah bon?
Non, parce que j'ai jamais connu de
psy.
Jamais allé faire de thérapie. Non, mais j'ai sans doute j'ai de très nombreuses névroses que j'essaye de gérer avec l'aide de mes.
On peut définir d'ailleurs ce qu'est une névrose?
Névrose, c'est un comportement légèrement déviant, légèrement pathologique, qui se manifeste dans les moments de tension.
Par une contradiction non résolue.
C'est quoi votre névrose, vous, Philippe Béziers?
Moi, c'est probablement...
À part Nicolas Sarkozy.
Un sentiment... Non, mais au contraire, lui, c'est l'occasion d'être parfaitement équitable. Non, c'est, je dirais, peut-être un sentiment d'abandon que j'éprouve assez souvent.
Ah oui,
sur ce plateau.
Alors c'est
non,
non mais
ce
ça
plateau,
c'est
ça va de soi puis
non, mais c'est...
on parle rarement mais
on parle plus,
mais sauf quand on est invité comme vous et brillant bien sûr. Mais non mais je vous rejoins sur
je vais faire un deuxième câlin.
Les névroses sont peuvent être des alliés.
Oui.
Je suis absolument...
Je vais faire un deuxième câlin de l'émission.
Ah non, non, n'abusez pas, on va penser que...
Non, vous avez dit une chose vraie, les névroses sont des alliés. C'est-à-dire qu'on se construit à partir de ces failles, de ces manques. Ouais. Et c'est ça qui nous aide à nous dépasser. Parce qu'en fait, le but de l'éducation, c'est amener chaque enfant à cultiver ses talents et à se dépasser lui-même.
Mais je sais, et vous avez tellement raison, mais c'est, ça, c'était le monde d'avant. C'est-à-dire que nous, on a été élevés avec l'idée « aide-toi, le ciel t'aidera ».
Non, mais ce monde n'est pas fini. Moi, je fais le pari quand même, parce que je suis fondamentalement optimiste que nous sortirons de cette condition.
Voir ce que vous nous laissez aussi. Voir ce que vous nous laissez aussi.
Mais regardez, allez, c'est fini.
Ne jouez pas à l'enfant, Pleurnichard.
On est à la somme de toutes vos crises. Hein.
Mais non. Vous jouez les victimes, là.
Bon,
vous jouez
en
les
tout
victimes,
cas...
c'est la faute à papa, c'est la faute aux boomers. Non,
c'est la faute aux boomers.
Je me disais, c'est votre quantième livre.
Ah, ça fait pas mal, oui, ça fait plus de 30. Enfin, j'ai un certain âge, donc si vous voulez, je n'ai fait que ça toute ma vie.
Ouais.
C'est
ça, une névrose, en fait.
En fait, ma névrose, c'est ça. Pour répondre à Pascal, j'ai une névrose obsessionnelle.
Je travaille toujours. Bon, le premier succès, c'était Le Nouveau Désordre Amour.
Oui, avec Alain Finkielkraut, oui. Ouais. C'était un là aussi énorme succès.
J'en ai passé l'autre jour un extrait. Vous aviez été reçus chez Pivot tous les deux. C'était formidable.
Oui.
Et alors, Alain Finkielkraut, il s'est trouvé tellement beau qu'il ne peut plus se voir. Il n'aime pas voir des images avant parce qu'il dit « Regardez ce que je suis devenu ».
Mais c'est la phrase de Racine, le vers « Des ans, l'irréparable outrage ». On est tous soumis à la loi du temps. Et là, malheureusement, personne n'y échappe, quels que soient par ailleurs les progrès des cosmétiques, de la chirurgie esthétique, qui ne marchent pas toujours.
Oui.
On le voit l'été sur les plages. On en voit parfois les...
Mais c'est fini.
Hein?
Je dis, mais c'est fini, hélas.
L'émission est finie?
Mais après, on est encore à l'antenne. Mais on déborde, c'est ce que je veux dire.
Fini, lui,
non, mais on est encore à l'antenne.
Oui,
il faut que je dise au revoir.
Bon, je vous dis au revoir. Merci.
Je remercie Virginie Leblond-Taïev qui était à la réalisation, Guillaume qui était à la vision, Thomas qui était au son, Marine Lançon, Félix Perrolaz. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. C'était un bonheur vraiment que vous veniez nous voir, Pascal Bruckner.
Merci, Pascal.
Je souffre donc, je trouve qu'elle est très, très belle, cette.
Oui, alors ça, c'est ma compagne qui l'a trouvé.
Ah ben écoutez, on salue votre campagne.
C'est grâce à elle qu'on a cette belle...
Ah vraiment, je trouve qu'elle est...
Oui, c'est un Magritte.
Oui, c'est un Magritte.
Parce qu'elle connaît très bien l'exécuteur testamentaire de Magritte.
Ah ben écoutez...
Il y a des gens dans cette jeune génération.
Quelle culture, voilà. C'est terminé.
Terminé.
On n'est pas perdu, on est capable aussi...
C'est terminé, nous rendons l'antenne. Merci Jean-Marc Morandini dans une seconde.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA.
TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.